Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Certains, et pas des moindres, Lozé, Visconti, en ont rêvé sans jamais aboutir. D'autres, Schlondorff, Ruiz, s'y sont risqués sans totalement convaincre. Alors, comment adapter Proust au cinéma ? Comment, dans un film, être fidèle tout à la fois à l'esprit et à la lettre de La recherche du temps perdu ? Comment la traduire par l'image et le son ? Et comment réunir sur l'écran les moyens de sa démesure ? En 2009, France Culture proposait une série en 5 volets consacrée aux adaptations cinématographiques de La recherche. Dans le troisième, Florence Colombani s'intéressait à La captive de Chantal Akerman d'après La prisonnière. La cinéaste y disait ce qui avait dicté les choix de son adaptation qui, débarrassée de l'accessoire et du décoratif, est peut-être à ce jour la plus fidèle, la plus libre, mais aussi la plus simple qu'on ait donnée du roman de Marcel Proust.
Proust, ce qui est sa force, c'est d'aller chercher en lui si loin que tout d'un coup on dit « oui, je reconnais ».
Nous avons ces images. Nous avons l'hôtel de Balbec avec l'hôtel de Mort-à-Venise, avec le grand hôtel des Bains, on le voit.
C'était là où je me suis dit, on peut quand même filmer ça, on peut quand même filmer un homme amoureux qui est la nuit à la recherche de cette femme à travers Paris et qui court d'un endroit à l'autre, qui est pris dans la circulation. Et bien ça, c'était vraiment la séquence cinéma pur.
Et puis on avait le sentiment de se retrouver là, dans la réalité d'un tournage, comme trois joueurs de poker. C'est vrai qu'il y avait un côté défi, Paris, une folie.
À un moment donné, il me semble que le narrateur s'envole, non ? C'est une jolie idée. Il faut s'envoler un peu.
Proust à l'écran, La captive de Chantal Akerman. De Chantal Akerman, on connaissait les grands films expérimentaux, comme Jeanne Dielman avec Delphine Seyrig, mais on n'attendait pas une adaptation de Marcel Proust et on avait tort. Car la cinéaste belge n'a jamais cessé, depuis ses courts-métrages du début des années 70, d'interroger notre perception de l'espace et du temps. Et puis parce que, comme elle le dit elle-même, deux personnages enfermés dans un appartement, comme Albertine et le narrateur, c'est précisément tout ce qu'il lui faut pour faire un film. Il lui aura fallu aussi la rencontre de cet aventurier du cinéma qu'est Paolo Branco, producteur franco-portugais et longtemps complice de Manuel de Oliveira. C'est ainsi qu'elle se lance dans son adaptation d'un volume d'À la recherche du temps perdu, La prisonnière, et qu'Albertine devient Ariane et le narrateur reçoit enfin un prénom, non pas le prévisible Marcel, mais l'inattendu Simon.
Vous savez, je l'ai lu par petits bouts assez jeune parce que, grâce ou à cause de ma cousine qui disait tout le temps Proust, 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 Proust. Bon. Et c'est vrai que j'ai été un peu débordée à ce moment-là.
Chantal Akerman.
Et je l'ai relu vraiment après avoir fait Jeanne Dielman. Et là, en fait, tout de suite, La prisonnière, je me suis dit, bon, c'est quelque chose sur une obsession. Ça se passe dans un appartement, c'est pour moi. Puis tout le livre a été très très important parce que ça traite en fait de sujets qui maintenant sont devenus presque des sujets à part, c'est-à-dire la France et l'affaire Dreyfus, la France et le gender studies, et puis l'histoire, c'est-à-dire que comment la bourgeoisie ne rêvait que d'aristocratie, l'aristocratie ne rêvait que d'argent, et donc a dû se mêler à la bourgeoisie. Et puis les Juifs, qui sont très importants, il y en a trois en fait. Il y a Swann, qui est presque le Juif idéal. Il y a Bloch, qui est le Juif qui veut changer de nom. Et puis, il y a le narrateur lui-même. Enfin, ça, on le sait, parce qu'on le sait, quoi.
Je vous.
Bon, la manière dont il parle de l'homosexualité, et même les femmes, enfin ce que dit Deleuze justement sur la prisonnière, sur Albertine, que c'est quelqu'un qu'on n'attrape pas, que c'est un être de fuite. Enfin, c'est un livre qui, je trouve, couvre presque tout ce qu'il y a. Je parle même pas de son écriture, hein, mais de ses thèmes. Ça couvre presque tout ce qu'il y a travaillé. Après ça, le XXe siècle.
Je vous aime bien. Je vous aime bien.
Proust, lorsqu'il publie Ode à Swann, a prévu une suite et une fin, d'ailleurs trois volumes, qui se seraient appelés du côté de Swann, le côté de Guermantes et le temps trouvé.
Jean-Yves Tadier.
Puis, la guerre venant, Grasset suspend ses publications, et donc Proust en profite pour accroître son roman. C'est à ce moment-là qu'il rédige « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », et que le côté de Guermantes, monde social où triomphe le baron Charlu, par ailleurs figure d'homosexuelle, développe une excroissance qui s'appelle Sodome et Gomorre. Et ça ne suffit pas, car dans Sodome et Gomorre, Proust conçoit un personnage féminin qui s'appelle Albertine, dont le narrateur tombe amoureux, mais le narrateur est en proie à une jalousie maladive qui développe elle-même aussi celle de Swann, telle qu'on a vu dans Un amour de Swann, et il imagine, pour être heureux en amour, que la solution est dans la séquestration, c'est-à-dire qu'Albertine devient une prisonnière volontaire, il faut le dire, de l'appartement du narrateur à Paris. Mais ça ne va pas calmer du tout la jalousie, au contraire, ça va vraiment la développer encore, jusqu'à la fin, qui, chez Proust, est la fuite d'Albertine. Le roman se termine sur la phrase prononcée par Françoise Bonne, mademoiselle Albertine est partie.
C'est-à-dire que j'ai surtout essayé d'éviter de chercher quelqu'un qui ressemble à Proust. Le narrateur, tout le monde, on le voit quand on lit. On sait que c'est Marcel. Hein. Ben, je n'ai pas fait Marcel. J'ai pris quelqu'un d'autre qui, du coup, n'est pas narrateur. Mais, comment dire, dans un film, il y a ou des voix off qui peuvent être des narrateurs, ou tout d'un coup, un personnage qui, comme dans Woody Allen, se retourne face caméra et commence à raconter, à commenter, ou alors il y a le metteur en scène qui fait la voix off, mais c'est pas... Je veux dire, je crois aussi que c'est une des premières fois dans l'histoire de la littérature qu'il y a eu un narrateur de cette sorte. Mais ça joue pas au cinéma. Au cinéma, on voit un homme et une femme. Non, il n'y a pas de position de narrateur. Il y a une position de la personne à qui ça arrive. Ça arrive un peu plus, disons, à lui qu'à elle. On est quand même plus avec lui qu'avec elle.
Comment est-ce que vous aviez choisi ces prénoms, Simon et Ariane ? C'était un...
Simon, je trouve très beau, et Ariane, j'aimais bien, et je sais pas, comme ça. C'était... Je voulais un nom qui commence par A, quand même. Moi, j'écrivais, et Eric de Kuyper et moi, on discutait. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé plus à partir des souvenirs du livre que sur le livre. Et bien sûr, on a été, je pense, au nœud. Into the bones, comme on dit en anglais, à l'os. Parce qu'il y avait plein d'autres choses avec Charlus, avec les Verdurin et tout ça. Et moi, je n'ai voulu que me concentrer sur les rapports d'Albertine, d'Ariane dans le film et du narrateur. Parce que c'est là qu'il y avait moyen d'écrire une chose en tension, si vous voulez. Et où on va forcément vers la mort. Vers une tragédie, quoi.
N'ouvrez pas les persiennes, Françoise. Pas encore.
Tout en écoutant les pas d'Albertine avec le plaisir confortable de penser qu'elle ne ressortirait plus ce soir, j'admirais que pour cette jeune fille dont j'avais cru autrefois ne pouvoir jamais faire la connaissance, rentrer chaque jour chez elle, ce fut précisément rentrer chez moi. Le plaisir fait de mystère et de sensualité que j'avais éprouvé, fugitif et fragmentaire, à Balbec le soir où elle était venue coucher à l'hôtel, s'était complété, stabilisé, remplissait ma demeure jadis vide d'une permanence provision de douceur domestique, presque familiale, rayonnant juste dans les couloirs et dans laquelle tous mes sens, tantôt effectivement, tantôt dans les moments où j'étais seul, en l'imagination et par l'attente du retour, se nourrissaient paisiblement. Quand j'avais entendu se refermer la porte de la chambre d'Albertine, si j'avais un ami avec moi, je me hâtais de le faire sortir, ne le lâchant que quand j'étais bien sûr qu'il était dans l'escalier, dont je descendais au besoin quelques marches.
C'était un concours de circonstances qui faisait que j'ai entendu Paolo Branco parler à Venise et il disait qu'il allait produire Le Temps retrouvé. Je me suis dit, moi qui ai toujours voulu faire la prisonnière. Et donc, un jour, j'étais là pour 3 jours à Paris, je vais au Flore, et il était là. Et je dis, Paolo, je veux faire la prisonnière. Ça s'est passé comme ça. Vraiment, un concours de circonstances heureux. Il n'y en a pas tant que ça.
Un jour, je buvais un café au Flore, et Chantal était là, et moi, depuis des années que j'avais une envie de travailler avec elle, parce que c'est quand même une énorme cinéaste. Et que
Paolo Branco.
Pour moi, c'était une de celles qui vraiment me manquait, entre guillemets, si vous voulez, ou que j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec. Et on s'est rencontrés, et moi, je lui ai demandé, bon, c'est le moment maintenant d'en travailler ensemble. Elle me dit oui, et elle me dit, j'ai un projet formidable. Depuis longtemps, je pense adapter La prisonnière de Proust. Et j'ai dit, aïe, Santane, Proust encore, tu sais que je suis en train de faire Le Temps retrouvé? Non, je ne sais pas du tout que je faisais. Non, je suis en pleine aventure du Temps retrouvé. Et maintenant, c'est La prisonnière. Un de ces jours, c'est les 7 tomes de la recherche que je vais par tranche le faire. J'ai dit, mais comment moi, je peux maintenant que je suis en pleine production du Temps retrouvé, aller chercher des financements pour une autre adaptation proustienne? Et elle m'a dit, oui, mais je veux faire une adaptation libre, et je ne veux surtout pas faire une adaptation d'époque, je veux vraiment faire quelque chose un peu hors temps, ou plutôt, si vous voulez, dans le temps moderne, un peu. Et donc, je l'ai demandé, la seule solution, c'est qu'on ne l'appelle pas La prisonnière, et surtout, qu'on ne parle pas, pour le moment, que c'est une adaptation de Proust. Et c'est dans cette rencontre qu'on a décidé d'appeler le projet La Captive. Et pendant toute la partie de recherche de financement, on n'a jamais parlé de que c'était une adaptation de Proust, donc c'était quand même quelque chose. Moi, je pense que c'est vraiment l'os de La prisonnière, c'est là. Et personne ne nous a fait le lien avec Proust. Et ça, c'est venu qu'après que le financement a été acquis, qu'on a pu avancer pour le tournage.
Est-ce que vous avez eu à quelconque moment la tentation du film d'époque, ou est-ce que cette
idée... Ah non, jamais. Je déteste faire des films d'époque. Je ne m'en sentirais pas capable. Non, je peux pas. Je sais que certaines personnes aiment bien faire des films d'époque, justement pour être plus libres par rapport à la modernité, parce que la modernité, 6 mois après, elle est déjà vieillotte. Hein. Mais j'ai fait une sorte de...
Chantal Ackerman.
Entre deux... Il y a des voitures... enfin, il y avait déjà des voitures en 14-18, mais bon. L'appartement, il peut être de maintenant, il peut être d'il y a 20 ans, il peut être de dans 20 ans, on sait pas très bien, les costumes... Mais je pourrais pas faire un film d'époque. Je sais pas, j'ai l'impression que on a très très... Peut-être pas tout le monde, mais c'est très difficile d'échapper au chic avec les costumes. Peut-être pas pour tout le monde, je n'en sais rien, mais...
Et en effet, dans La Captive, vous avez inventé une sorte de, d'époque indéfinie, notamment avec la voiture qui joue un rôle très important visuellement dans le film.
Ben, la voiture, elle est de 1950. Et vous savez, moi, je suis née en 1950. Et par exemple, le décor de Jeanne Dielman, c'est un décor des années 50. Et c'est vrai que, sans s'en rendre compte, souvent, on a envie de retracer ses premières années à travers les décors. C'est les décors qui vous touchent. Alors évidemment, les années 50, bizarrement, c'est le premier moment où ça fait pas époque. Parce que les années 50, ben, c'est le moment où il y avait Elvis Presley et c'est le moment où tout a changé. C'est après. Mais si on se met dans 40-45, on est tout de suite dans un film d'époque.
Les extérieurs sont évidemment très stylisés. On traverse la place Vendôme au moment où les boutiques sont fermées. Et pour le moins, dimanche matin. De même, on va au bord de la mer, mais il n'y a personne, sauf dans le film d'amateur au début. Donc le monde est assez vidé tout de même de son contenu. Par conséquent, il est intemporel. D'ailleurs, quand même il serait placé en plein XXe siècle, ça ne me gênerait pas du tout. À partir du moment où c'est une histoire qui peut toujours se reproduire. C'est Rob Grillet qui a écrit un de ses meilleurs livres, La jalousie. Cette maladie, cette passion pathologique, elle peut ressurgir n'importe quand, jusque dans les faits divers, et elle mène au crime.
Si vous deviez résumer La Captive, comment est-ce que vous le feriez ?
Entrer dans la pensée d'une femme.
Stanislas Mérard.
Être une espèce de machine suffisamment sophistiquée pour arriver à lire l'illisible dans la tête d'une femme.
J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous enlever à vos amis. Il fait beau, j'avais tellement envie qu'on se promène ensemble. C'était Léa, n'est-ce pas ?
Qui ça ?
Celle qui vous a dit à ce soir.
Oui.
C'est étrange tout ça ce soir.
Étrange ?
Vous m'aviez pourtant bien dit que vous ne connaissiez pas Léa.
Je vous ai dit ça. C'est possible, je la connais à peine.
Pourtant son ton quand elle vous a appelé.
C'est une actrice. Elle est terriblement extravertie.
Mais pourtant elle écrit comme si réservée.
Oh non, elle n'est pas du tout réservée, au contraire. Enfin, pour le peu que je la connaisse. Ça, c'est ce que m'a dit Hélène, parce qu'elle, elle la connaît très bien.
Si bien que ça. Vous voulez dire que Hélène est...
Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire... Hélène connaît tout Paris.
C'est Hélène qui vous l'a présenté.
Mais non. Peut-être, je m'en souviens à peine il y a si longtemps.
Enfin, vous avez dû faire sur elle une forte impression. Elle se souvient de vous.
Vous croyez ?
Alors l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est un mystère. Est-ce que ces deux êtres-là s'aiment ? Non, je pense qu'ils... Je ne sais pas. Mais en tout cas... chacun répond à l'un l'autre, c'est-à-dire que
Chantal Ackerman,
elle sans doute, ça doit l'exciter ce que lui il a pour elle. Et lui, si c'était quelqu'un de plus tranquille et qui le mettait moins en cause, il s'ennuierait. Donc il a besoin d'être dans le doute tout le temps. Sinon, ça fait pas fonctionner sa propre machine, disons, pour parler un peu grossièrement. Alors, ce sont deux êtres qui se sont rencontrés, qui ont chacun ce qu'il faut pour l'autre. Mais pour le pire, pas pour le meilleur. Alors, à part ça, je ne sais pas ce que c'est que l'amour.
Ce qui est assez impressionnant, c'est comment elle arrive à transmettre cette espèce de personnage fuyant qu'Albertine, en même temps cette tentative de possession de l'homme sur quelque chose qui l'échappe et qu'il ne comprend pas et qu'en même temps est extrêmement double.
Paolo Branco.
Et je pense que c'est quelque chose que Chantal, qu'elle-même s'est mis en scène dans ses premiers films, donc avec non seulement le côté homosexuel, si on peut dire, mais le côté double de ce personnage féminin. Et Chantal, c'est quelqu'un qui a compris complètement cette vision proustienne de l'amour, de la passion et de cette impossibilité d'apprivoiser quelqu'un. Même si on apprivoise par le corps, on apprivoise par l'esprit, cette liberté qui règne dans ce personnage d'Albertine. Et c'est ça qui me paraît assez fort dans le film, et surtout avec cette jeu de ces acteurs tellement contrôlé et en même temps libre de Stanislas et de Civitestu qui fait cibler la réussite du film.
Pour rien vous cacher, j'ai aucun souvenir des essais parce que j'occulte beaucoup les choses, comme Proust d'ailleurs. Je suis sans mémoire.
Stanislas Mérard.
Je me souviens des essais qu'elle m'a fait passer pour trouver Ariane, donc Sylvie Testu. Je me souviens précisément des trois actrices et de cette série d'essais où j'étais plus à l'aise puisque elle m'avait déjà choisi. Voilà, mais les raisons pour lesquelles elle m'a choisi, je les connais pas, je les ignore. Et c'est pas plus mal, en fait. Quand on est avec une cinéaste de cette ampleur, on est emporté dans son génie et on n'a pas envie de comprendre forcément les choses. Et le scénario m'avait, pour être tout à fait honnête, m'était passé un peu au-dessus de la tête. J'ai une sœur qui est très cinéphile et qui m'avait dit à l'époque, j'avais peu d'expérience, Chantal Ackerman, c'est les yeux fermés. Et puis j'étais à un moment de ma vie où faire un film, c'était très important. J'étais dans la position d'être choisi par elle et non pas d'accepter, comme font beaucoup d'acteurs, non pas d'accepter le rôle. Là.
Et Stanislas, c'est quelqu'un qui est difficile à connaître. C'est-à-dire que quand on le voit, on ne peut pas se dire tout de suite il est comme ci ou comme ça. Il reste un mystère.
Chantal Ackerman.
Pas dans le sens romantique du terme, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon? Parce que bon, c'est un très beau garçon, mais il n'est pas que ça. Il est caché. Et c'est très intéressant dans un film. Il est beaucoup plus caché que Sylvie. Et je trouve que du coup, il pose question tout le temps. Souvent, les acteurs, ils se donnent terriblement. Et on voit tout de suite. Et tout de suite, je m'ennuie. Et lui, presque on a envie de craquer je sais pas, ce qui l'entoure. Et on n'y arrivera pas. Et c'est très beau, je trouve.
Voilà. Et en fait, elle attendait de voir quelque chose entre deux personnages qui est au-delà des mots, je pense. Qui est même au-delà des attitudes, qui est quelque chose de... Voilà. Et elle l'a trouvé avec Sylvie et moi.
C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'auditions et ils se sont retrouvés une fois ensemble dans l'image. Et c'est quand je les ai vus ensemble que je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Alors qu'ils étaient tous les deux mauvais aux auditions. Mais il y avait une image, il y avait quelque chose qui se passait. Et puis il y a eu tout de suite une profonde sympathie entre nous. Enfin, je savais qu'il serait bon, qu'il serait bien. Qu'il serait bien pour le film.
Voulez-vous que je vienne?
Non, pas encore. Tout à l'heure, peut-être.
On s'est allongé sur l'air. C'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches.
bien dissimulé. Samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé.
Venez maintenant. Que pouvez-vous faire ce soir? Jouer aux dames comme hier.
Aux dames dans le noir? Je perdrai encore.
Juste une partie.
Si vous voulez, mais j'ai pas très envie.
Juste une.
Bon, d'accord.
Et alors, Chantal Akerman a donc fui absolument le spectacle.
Jean-Yves Tadier.
Son film est très abstrait. Même les scènes, les rares scènes sensuelles de la prisonnière ont été plutôt gommées. Enfin, il y en a une, à la rigueur, qui est d'ailleurs une scène de nénisme à côté de la jeune fille. Qui n'a rien d'impossible, d'ailleurs. Je veux dire par là que ça peut correspondre tout à fait au personnage, ça peut même correspondre tout à fait à Proust. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a, et en tout cas, cette scène ne rayonne pas de sensualité. S'il y a érotisme dans ce film, il est extraordinairement abstrait. Malraux définissait l'érotisme comme la contrainte. Mais il le dit à propos des liaisons dangereuses, justement. Alors, nous ne sommes pas loin du monde de Laclos, d'une certaine façon, où il s'agit d'un homme qui cherche à exercer de manière abstraite son pouvoir sur une femme, sans en tirer particulièrement de jouissance charnelle. Bon, ça, c'est un film évidemment scandaleux.
Je peux allumer et lire quelque chose, si vous voulez. Mais j'ai les yeux qui brûlent ce soir.
On peut écouter de la musique?
Ben oui, comment dire, elle est un peu dans le fond de l'appartement. Et elle joue le jeu. Enfin, il y a une sorte de quelque chose de tacite entre eux, où il lui demande de venir, elle sait qu'elle doit venir à tel moment, elle sait qu'il ne faut pas le déranger. Et en plus, elle a compris un peu comment il fonctionne. Il y a une sorte de dispositif entre eux. Qui fait que elle vient quand il lui demande, elle se lave en même temps que lui et elle accepte tout ça jusqu'au moment où elle en peut plus parce qu'il pose trop de questions quoi. C'est vraiment un dispositif qui est érotique hein, à leur manière parce que là par exemple pour la scène érotique j'ai vraiment fait mot à mot ce qu'il raconte. Et les gens sont très surpris parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il se caresse sur elle, et il jouit, et elle jouit, et elle dit, André, ça c'est tout à fait comme dans le Proust. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un dispositif. Il sait que, et elle sait que si ça se passe pas exactement comme ça, il pourra rien faire. Et en fait, je crois qu'elle accepte aussi ce dispositif et elle pense ainsi avoir la paix. Et en fait, elle n'a jamais la paix. Parce que quoi qu'elle fasse, pour essayer d'aplanir, disons, cette obsession, enfin, pas aplanir, mais pour le calmer, disons, elle rajoute du charbon à sa... Qu'est-ce qu'on peut appeler ça, une névrose enfin, son obsession.
Je suis fou de curiosité, je vais sans doute vous paraître absurde, mais qu'est-ce qui se passe entre femmes? Enfin, qu'il n'y a pas entre un homme et une femme. Je m'imagine. Non, je ne sais pas. Je veux surtout parler des sentiments. Mais pas seulement les gestes aussi. J'ai déjà vu des femmes ensemble, bien sûr.
Les sentiments?
Mais y'a rien à comprendre, et puis comment expliquer? Tu pourrais, toi, Isabelle?
Ça s'explique pas. Tu pourrais, toi, Sarah?
Non, je pourrais pas.
Est-ce que c'est possible, par exemple, en faisant l'amour, qu'une femme puisse oublier qu'elle est avec un homme?
Ça t'est déjà arrivé à toi, Isabelle?
Non, mais j'ai pas essayé, mais je suis sûre que ça peut arriver.
Tu te souviens avec Gérard?
Oui, je m'en souviens. Je l'ai aimé, c'est vrai, mais c'était pas du tout la même chose.
En quoi?
Je sais pas. J'étais moins émue, il me semble. Enfin, émue n'est pas le mot.
Quel est le mot alors? Moins quoi?
Il faut dire que ce récit a été inspiré très directement à Proust par une aventure amoureuse qu'il a lui-même vécue en 1914 et 13-14 et qu'immédiatement il transpose dans ses deux romans.
Jean-Yves Tadier.
Et Proust tombe amoureux d'un chauffeur de taxi de Cabourg qui s'appelait Agostinelli, peut-être maintenant le chauffeur de taxi le plus célèbre de l'histoire de la culture, transpose histoire, transpose des sexes, mais ne transpose pas beaucoup d'histoire. C'est à peu près celle qu'il a vécue. Agostinelli est venu habiter chez Proust, boulevard Haussmann, jusqu'au jour où il a décidé, ayant arraché assez d'argent à son... que faut-il dire ? À son patron, à son amant, il décide de s'en aller sur la Côte d'Azur pour faire... de l'avion. Et là, faisant de l'avion, il tombe dans la mer, parce qu'il ne sait pas nager, et il s'est englouti dans l'eau avec une somme énorme dans une enveloppe que lui avait donnée Proust.
Et Proust avait des raisons d'être jaloux d'Agostinelli, puisqu'il était marié.
Oui, mais alors, c'est assez étrange, c'est probablement pas de la compagne d'Agostinelli, qu'il hébergeait aussi, une certaine Maria, que Proust était jaloux. On voit ça dans les brouillons, dans les esquisses. Il était jaloux des hommes, pas des femmes. Il dit vraiment, justement, que, enfin, pour lui, il ne savait pas du tout ce que c'était que le plaisir entre hommes et femmes. Il le savait entre hommes et hommes. Et donc, il était jaloux des hommes. Et alors, moi, j'ignore absolument, c'est d'ailleurs, si c'était purement fantasmatique, si Agostinelli avait des relations masculines aussi, ou si c'était... chez Proust, une jalousie complètement folle, derrière laquelle il n'y avait rien. Mais l'intérêt à la fois du roman de Proust et du film de Chantal Akerman, c'est de maintenir l'ambiguïté. On ne sait pas exactement si les reproches faits d'un côté à Albertine, avec des témoignages d'autres jeunes filles, et d'autre part à Agostinelli, avaient la moindre justification objective.
Il veut savoir ce qu'il ne pourra jamais savoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux femmes. Et les filles ne répondent pas. Parce qu'elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles peuvent dire? Et en fait, ça le taraude. Bon, je crois que Proust lui-même, c'est parce qu'il voulait savoir ce qui se passait entre Agostini et sa femme. Mais là, pour moi, c'est plus intéressant que ce soit entre deux femmes. J'ai un ami homosexuel qui a écrit un livre sur Genet. Il a dit, pourquoi tu n'as pas fait avec que des hommes? Je dis, mais écoute... moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que, bien sûr, les personnages de Proust, c'est des mélanges d'un tas de personnages qu'il a connus. Bon, Albertine, c'est facile de voir d'où elle vient. Et André, je ne sais pas. Charlus aussi, c'est un mélange. Et moi, je trouve que dans son obsession, là où elle lui échappe vraiment, là où vraiment il ne peut rien savoir, c'est de son amour des femmes. Et c'est là que le fossé est le plus grand, et c'est là que, disons, le trou est le plus ouvert. C'est-à-dire qu'il n'en saura jamais rien.
Et ces interrogatoires figurent bien dans La Chante perdue, et même dans des brouillons que nous avons publiés dans l'Invité de la Pléiade. Il y en avait plus encore, ce qui montre bien le caractère obsessionnel de l'idée de « on va interroger des témoins, et Proust, on verra dans la vie ». Des gens pour interroger des témoins, bien sûr, de la vie d'Agostinelli avec les aviateurs. Agostinelli était aviateur et justement les aviateurs passaient pour être un monde à l'époque, une sorte de fraternité où les femmes n'entraient pas. Donc il y avait cela et dans le roman ça devient des enquêtes où il envoie Saint-Loup, Aimé et d'autres pour enquêter sur Albertine. qui découvre ses ébats avec des petites blanchisseuses, des personnages de ce genre.
Je me souviens de l'interrogatoire des deux amis. Je comprenais même pas vraiment ce qu'elle me disait. J'intellectualise pas, je suis tout le contraire de ça. Je suis presque un idiot qui a juste interprété sous la baguette d'un grand cinéaste. C'est vraiment ça. Encore une fois, Chantal est tellement puissante que il n'y a pas d'autre solution que d'être dans cette faille très mince de la justesse d'une scène. Et c'est une cinéaste qui est à chaque plan sous la caméra. Et ça, c'est quelque chose de très violent, mais dans le bon sens, dans le sens on y va, quoi. À aucun moment je me suis posé des questions sur la psychologie du personnage d'Ariane. Je me concentrais sur les yeux de Sylvie, sur sa main, sur son. C'est des choses très simples au final, très normales. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on a quand même travaillé 2 mois avec Sylvie, à table, comme on dit, chez elle, dans son appartement. Sont les dialogues du film. Et c'est assez magique parce qu'elle m'a emmené dans sa langue et dans une langue. Et elle parlait beaucoup de murmures, de voix basse, de ne pas heurter les sons, enfin des choses de cet ordre.
Tout se passe pour votre ville, il y avait du muguet. Ce jour-là, à Boitchaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai.
Vous n'êtes pas trop chaude?
L'eau est chaude, mais c'est bon.
Ton sexe est si beau quand il est un peu humide. Hier, tu t'étais endormie sur mon lit et ton peignoir avait glissé. Je t'ai regardé. Et j'ai un peu entrouvert tes jambes. J'ai regardé ton sexe si beau. Ça te dérange pas?
Mais non. Fais ce que tu veux.
Alors je l'ai respiré, il était chaud et tendre.
Oui?
Mon Ariane. Si ce n'était mon allergie et tout ce pollen que vous ramenez chaque fois du dehors, autant parfois que vous ne vous l'aviez pas.
Jamais.
Et pas si souvent.
La langue reste quand même assez, je dirais presque classique. Pas moderne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de « il n'y a pas de d'argot, quel que soit, c'est une langue assez pure. Mais c'est pas vraiment les mots... Parfois, il y a des mots de Proust, mais pas tout le temps. Moi, je les ai réinternalisés et recrachés, si je peux dire, oui.
Il y a là, transmis cette espèce d'érotisme qui existe dans...
Paolo Branco.
Dans La Prisonnière, d'une façon tellement fine et intelligente, si vous voulez, que... Et cette espèce de modernité hors du temps qui donne un peu le côté universel de l'histoire. Donc, et c'est ça qui est brillant dans ce film.
Quand Albertine savait par Françoise que dans la nuit de ma chambre au rideau encore fermé, je ne dormais pas, elle ne se gênait pas pour faire un peu de bruit en se baignant dans son cabinet de toilette. Alors souvent... Au lieu d'attendre une heure plus tardive, j'allais dans une salle de bain contiguë à la sienne qui était agréable. Les ballets russes nous ont appris que de simples jeux de lumière prodiguent, dirigés là où il faut, des joyaux aussi somptueux et plus variés. Cette décoration déjà plus immatérielle n'est pas si gracieuse pourtant que celle par quoi à 8h du matin le soleil remplace celle que nous avions l'habitude d'y voir quand nous ne nous levions qu'à midi. Les fenêtres de nos 2 salles de bain pour qu'on ne pût nous voir du dehors, n'était pas lisse, mais toute froncée d'un givre artificiel et démodé. Le soleil, tout à coup, jaunissait cette mousseline de verre, la dorait et, découvrant doucement en moi un jeune homme plus ancien qu'avait caché longtemps l'habitude, me grisait de souvenirs, comme si j'eusse été en pleine nature devant des feuillages dorés où ne manquait même pas la présence d'un oiseau. Car j'entendais Albertine siffler sans trêve. Les douleurs sont des folles et qui les écoute est encore plus fou. Je l'aimais trop pour ne pas joyeusement sourire de son mauvais goût musical. Une nuée passait. Elle éclipsait le soleil. Je voyais s'éteindre et rentrer dans une grisaille le pudique et feuillu rideau de verre. Les cloisons qui séparaient nos deux cabinets de toilette étaient si minces que nous pouvions parler tout en nous lavant, chacun dans le nôtre, poursuivant une causerie qui interrompait seulement le bruit de l'eau, dans cette intimité que permet souvent à l'hôtel l'exiguïté du logement et le rapprochement des pièces, mais qui à Paris est si rare.
Et puis, quand il écrit, il cherche, sa phrase va, jusqu'à ce qu'il pense qu'il a été au plus loin de ce qu'il pouvait ressentir. Et ça, c'est fascinant, parce que dans cette chose qui parle de tant de mondanité, etc., lui, avec sa phrase, il va dans la chair des choses, dans le cru presque.
Est-ce que quand vous avez monté ce film, il y a eu un travail de réécriture particulier au montage, ou c'était vraiment...
Pas tellement, mais c'était plus long. Et tout le travail a été de tendre le fil. Parce que je trouve qu'on tend le fil très très fort dans le film. Et tout ce qui était un petit peu en trop, en plus, chut. Donc c'est une seule ligne qui tire jusqu'au bout.
Parce que c'est un film sur l'obsession.
Je pense qu'il ne vous lâche pas.
Et puis de façon plus... J'ai envie de dire... qui a plus un rapport à ma propre vie, c'est le... ce que moi j'appelle la filoche.
Stanislas Mérard.
Ce qu'on appelle en d'autres termes une filature. J'ai eu ce syndrome dans ma vie privée, de suivre une femme que j'aime, et de la souffrance que ça provoque. Parce que de suivre une femme pour savoir ce qu'elle fait dans votre dos, c'est quelque chose de... au moment où on le vit, de très douloureux. Alors je ne sais pas si c'est un exercice masochiste, mais c'est quelque chose de très douloureux. Après la captive, donc en 2000, j'ai beaucoup pratiqué la filature.
Donc c'était après. C'est comme un film prémonitoire, alors.
Comme si le... ou qui m'a terriblement perturbé et influencé, et autorisé peut-être.
Comment est-ce que vous aviez choisi...
C'est ce que je suis en train de faire en ce moment.
Ouais.
Sur quelqu'un qui m'échappe. Grâce à Internet, j'apprends sur une personne qui m'a échappé plus que ce que je ne savais de cette personne quand elle était là. Et on n'a jamais fini. Donc vous voyez,
ouais.
Je suis assez proche et du narrateur et d'elle.
Monsieur ?
Mademoiselle Ariane Ray.
Elle ne loge pas à l'hôtel, monsieur ?
Je croyais. Jamais.
Non, sa tante descend toujours ici, mais pas elle. D'ailleurs, elle arrive mardi. Mademoiselle Ray vient juste de réserver une chambre pour elle.
Oui, je sais. Merci.
Quand La Captive est sortie, on a beaucoup parlé d'Hitchcock. Ouais. En tout cas, c'est ce que les critiques y ont vu en premier, comme référence. Évidemment, n'importe quel film qui raconte comment un homme poursuit une femme fait parler de vertigo. Est-ce que pour vous, ça avait du sens, cette comparaison ?
Oui et non. C'est-à-dire que... Bon, j'adore ce film. Hein. C'est un film extraordinaire, mais... la manière dont il la suit... c'est tellement tourné d'une manière plus simple et moins sophistiquée. Si vous voyez comment c'est fait, le film d'Hitchcock, il y a un moment où toute la voiture bouge. On prend des bouts de voiture, enfin tout ça, dessiner, moi c'est quand même beaucoup plus simple. En plus, je n'ai pas la technique d'Hitchcock. Je n'aurai jamais, je ne sais pas dessiner, etc. Mais je pense qu'au-delà d'un homme qui suit une femme, dans Vertigo, il y a aussi la fétichisation. C'est autrement que dans... C'est autrement que dans Vertigo, mais ça l'est. Oui, c'est vrai. J'avais montré d'ailleurs Vertigo à Stanislas avant de commencer, mais pas pour la voiture ni rien. Je lui avais montré comment il n'y avait pas un geste de trop, quoi. Bon, j'adore le James Stewart. C'est vraiment, on n'a plus des gens comme ça. Mais au fond, la fétichisation de cette femme qui cherche partout, c'est pas si loin. C'est vrai. Vous savez, tous les films, justement, de Hitchcock et d'autres de cette époque-là, c'était des musiques qui s'étaient inspirées ou de Shostakovich ou de Rachmaninoff ou de gens comme ça. Moi, j'étais à la base, à la source. Et ça donne une tension. Et chaque fois, que je l'utilise assez souvent, et chaque fois, ça joue différemment. Parce qu'à la fin, on a envie de pleurer. Et au début, quand il la suit en voiture, ça donne une tension policière comme dans les films d'Hitchcock ou la musique d'Hermann. Mais c'est du Rachmaninoff, c'est quand même encore mieux.
Plus nulle part, et Ariane non plus. On dirait que vous avez disparu du monde. Vous la voyez parfois?
Très souvent, oui, assez souvent.
Vous savez pas où je pourrais la trouver? J'ai justement quelque chose à lui dire.
Quoi donc?
Oh, rien, des choses à propos de petite camarade à elle.
Qui ça?
Des camarades d'autrefois.
Quelle camarade?
Je sais pas les noms. Bon, il faut que je m'en sors. Au revoir, Simon.
Ce que Chantal Akerman cherche à restituer, c'est l'idée d'un monde de Gomorre, de toute une petite société de jeunes filles. Alors le film s'ouvre sur...
Oui, sur un film d'amateur où on voit les ébats jeunes filles dans les bars, ébats tout à fait innocents d'ailleurs.
Je vous aime bien.
J'adore cette partie en Super 8, là, où il lit sur les lèvres de... Ben, oui, là aussi, c'est prendre d'une autre partie du livre. Hein, et je l'ai condensé en quelques minutes de Super 8. Et donc, le fait que ce soit projette ce Super 8 que lui aurait filmé, ça passe déjà à travers l'image et le fantasme. Hein. Il est dans le pur fantasme.
Mais, bon, ces ébats, ce film d'amateur, c'est...
Jean-Yves Tadié.
Ça reste très abstrait, c'est pas traité à fond du tout. Ce sont pas les images dantesques de Pasolini dans sa loupe. Ça n'a rien à voir. Ça aussi, elle le gomme, Chantal Akerman le gomme rapidement. C'est un monde qui a un côté Giacometti. Ces personnages sont un peu comme des fantômes, très stylisés. Elle a un cinéma, au fond, très abstrait. Très, très, très peu charnel. Et probablement pour souligner le fait que la jouissance du narrateur, dans la mesure où elle existe, serait uniquement d'ordre intellectuel et fantasmatique, qui sait même s'il ne prend pas plaisir en réalité à l'évocation de ses fantasmes homosexuels féminins. Et si il est sadique dans ses questions et masochiste dans l'usage qu'il fait des réponses.
Si tu ne me cachais pas tout.
Je ne te cache rien. Rien qui te concerne.
Si tu ne me cachais pas tout, je n'aurais pas eu besoin d'aller parler à...
Quoi que je fasse, quoi que je dise, tu n'aurais pu t'en empêcher.
Tu crois ?
J'en suis sûre.
Jamais menti.
Oui. C'est-à-dire non.
Je vois pas tellement ce film comme un thriller, mais plus comme une douleur. Moi. L'en parler de cette scène où il ramène la femme qu'il aime chez sa tante. Je sais tellement ce que ça veut dire que de dire adieu à une fille qu'on aime. On veut, par-dessus tout, qu'elle reste. Et parce qu'on veut qu'elle reste, on prend ses affaires, ses valises, et on lui dit « va-t'en ». Et en fait, on lui dit exactement l'inverse. On lui dit « pour l'amour de Dieu, reste avec moi ». Et ça, c'est ce qu'elle arrive à filmer, dans la lenteur en plus, de façon incroyable. Parce que la scène chez la tante dans la maison, la réconciliation qui va amener à la mort.
S'il fallait résumer le film, le résumé tiendrait en trois lignes. Un jeune homme est jaloux d'une jeune fille qui l'enferme chez elle jusqu'au jour où elle disparaît. C'est une sorte de contraction très rapide, très vive, très brutale, de la fin d'Albertine, ainsi suggérée. Elle n'en peut plus et elle se tue.
Mais il y a une grande différence dans le film, c'est qu'il y a une espèce de réconciliation entre Simon, l'équivalent du narrateur, et Ariane. Et donc, elle meurt alors qu'ils sont encore ensemble, même si cette réconciliation, on y sent le poids de la...
Oui, mais il me semble que même chez Proust, on pourrait penser que la dernière journée avant est une journée beaucoup plus tendre que les autres. C'est pas impossible. Rien ne permettait au narrateur proustien de deviner qu'Albertine allait s'enfuir. Ça, c'est l'art du romancier. Le coup de théâtre est d'autant plus grand qu'il est préparé par son inverse. Par conséquent, cette fin n'est pas du tout anti-proustienne. Elle est énigmatique, c'est très bien.
Oui, parce qu'elle sent bien dans la voiture que... Elle sent que c'est la fin. C'est pas pour ça qu'elle sent que c'est la mort. Mais on sent que c'est la fin entre eux. C'est, je crois, quand justement dans la voiture, dans les mots qui se disent, on se rend compte, elle se rend compte, enfin, quand ils sont à l'hôtel, il y a quelque chose de vraiment tragique. Elle se rend compte que non, que ça n'ira jamais. Et lui, au fond, enfin, il y a un côté désespéré, je trouve, quand ils sont tous les deux à l'hôtel. Et en fait, quand elle part à la mer, elle, c'est comme c'est. C'est pour se libérer d'une. Et elle meurt.
Mais c'est lui le captif, il souffre. Il n'a pas la même souffrance qu'Ariane. Sa souffrance, elle est. À mon avis, elle aurait dû finir au fond de la mer, et pas sur la barque, sauvée par un pêcheur. Donc finalement. Quand il revient, la souffrance, elle continue. Donc, moi, j'ai l'image de ça. Évidemment, j'ai jamais pensé à incarner Marcel Proust une demi-seconde. Une demi-seconde. Mais la douleur, la douleur presque intellectuelle dans laquelle il est prisonnier, justement. Et pour moi, tragique, parce que c'est lui qui revient. Enfin, on comprend à la dernière seconde que c'est lui qui est sur le bateau.
Je crois qu'on a été très fidèles sur sur ce que c'est que, disons, une obsession, mais pas sur les détails pas sur la narration de Proust, disons.
C'est d'abord un film de Chantal Akerman, et c'est en cela que c'est une réussite, qui emprunte en effet une situation à la prisonnière de Proust, mais en donnant une version, c'est là que c'est son style à elle, une version complètement désincarnée, qui est quelque chose d'abstrait, elle en retient l'idée du procès. C'est un mot qu'emploie Proust, un procès continuel avec des accusations. On entendrait que l'accusation, d'ailleurs, est jamais vraiment la défense. Donc, nous avons un film qui fait référence explicitement à la prisonnière, mais avec l'expression prudente, inspirée par. Du reste, dans leur relation, il y a une ou deux très belles scènes du roman qui sont très peu développées, quasiment implicites dans le film de Chantal Akerman. Par exemple, à la très grande et très belle page sur le sommeil.
Alors, sentant que son sommeil était dans son plein, et que je ne me heurterais pas à des écueils de conscience recouverts maintenant par la pleine mer du sommeil profond, délibérément je sautai sans bruit sur le lit, je me couchai au long d'elle, je prenais sa taille d'un de mes bras, je posais mes lèvres sur sa joue et sur son cœur, et puis sur toutes les parties de son corps posais ma seule main restée libre, et qui était soulevée aussi comme les perles, par la respiration d'Albertine. Moi-même, j'étais déplacé légèrement par son mouvement régulier. Je m'étais embarqué sur le sommeil d'Albertine. Parfois, il me faisait goûter un plaisir moins pur. Je n'avais besoin pour cela de nul mouvement. Je faisais pendre ma jambe encore contre la sienne, comme une rame qu'on laisse traîner et à laquelle on imprime de temps à autre une oscillation légère, pareille au battement intermittent de l'aile qu'ont les oiseaux qui dorment en l'air. Je choisissais pour la regarder cette face de son visage qu'on ne voyait jamais, qui était si belle. On comprend à la rigueur que les lettres que vous écrit quelqu'un soient à peu près semblables entre elles et dessinent une image assez différente de la personne qu'on connaît pour qu'elle constitue une deuxième personnalité. Mais combien il est plus étrange qu'une femme soit accolée, comme Rosita à Dodica, à une autre femme dont la beauté différente fait induire un autre caractère, et que pour voir l'une, il faille se placer de profil, pour l'autre de face. Le bruit de sa respiration devenant plus fort pouvait donner l'illusion de l'essoufflement du plaisir, et quand le mien était à son terme, je pouvais l'embrasser sans avoir interrompu son sommeil. Il me semblait à ces moments-là que je venais de la posséder plus complètement, comme une chose inconsciente et sans résistance de la muette nature.
Avec Chantal Akerman, Paolo Branco, Stanislas Mérard, Jean-Yves Tadier. Prise de son, Isabelle Limousin et Laurent Lucas. Mixage, Pierre Mine. Proust à l'écran, La captive de Chantal Akerman, une émission de Florence Colombani réalisée par Céline Ters. Cette émission a été diffusée la première fois le 15 août 2009 sur France Culture.